Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Isolde Sicard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième étape de notre exploration de l'économie de la drogue. Aujourd'hui, retour à la légalité et cap sur l'Amérique du Nord où le nouveau marché du cannabis prend son essor. Après l'Uruguay, pionnier de la légalisation, le Canada est devenu le premier pays du G20 à autoriser le cannabis récréatif au mois d'octobre. Aux États-Unis, ce sont pas moins de 10 États qui ont sauté le pas au cours des dernières années. Alors quels sont les enjeux économiques de ce marché qui suscite l'appétit des géants de l'industrie et d'innombrables start-up ? Le commerce du cannabis légal parviendra-t-il à éradiquer le marché noir et à diminuer la consommation des plus jeunes? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la ruée vers l'herbe avec Ivana Obradovic, sociologue, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, auteur d'un article paru l'an dernier dans la revue Politique américaine, Vers la fin de la prohibition, convergence et disparité des initiatives de régulation du cannabis aux États-Unis. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
Les habitants du Colorado ont approuvé la législation de la marijuana à travers l'amendement 64. Donc, comme l'alcool, maintenant, on peut acheter de la marijuana en magasin. Il y a plusieurs restrictions, notamment autour de la production et de la vente. La consommation sur la voie publique est interdite. Mais chez vous, vous pouvez la fumer, la faire infuser, la cuisiner. Tout ce que vous voulez sans la moindre réaction des autorités. On en est fiers. Pour nous, c'est quelque chose de novateur.
Bonjour Ivana Obradovic.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre le shérif du comté de Pitkin dans le Colorado, un état où le cannabis a été légalisé en 2014. Alors on en parlait hier, les États-Unis ont été les premiers à lancer la guerre contre la drogue dans les années 70, caractérisée par une forte répression. Mais il figure également aujourd'hui parmi les pionniers en matière de légalisation du cannabis. Alors comment comprendre ce paradoxe ? D'abord, est-ce que c'en est un selon vous ?
Alors effectivement, ça semble être un paradoxe puisque les États-Unis sont le chantre historique de la prohibition. C'est effectivement le président Nixon qui a lancé la guerre à la drogue en 71 et qui a pesé sur la tonalité des conventions internationales des Nations Unies qui prohibent toutes les formes d'offres de cannabis, de la production jusqu'à la vente. Là où c'est moins un paradoxe, c'est qu'un certain nombre d'États américains avaient déjà légalisé le cannabis à usage médical pour certains depuis assez longtemps. La Californie a été le premier État à le faire en 1996. Donc vous voyez qu'on avait déjà un petit peu de recul sur la manière dont ça se passait. Effectivement, la légalisation de l'usage récréatif de cannabis est une nouveauté qui a été approuvée par référendum dans deux États. D'abord, en 2012, le Colorado et l'État de Washington. Ensuite, en 2014, dans l'Oregon et l'Alaska et également à Washington DC. Et puis, dans quatre nouveaux États en 2016, dont la Californie, qui était déjà le premier marché de consommation au monde, s'agissant du cannabis. Et puis, dernièrement, le Michigan a été le dernier État américain à légaliser. Et dans les mois qui viennent, on pourrait imaginer que d'autres États américains sautent le pas, puisqu'un certain nombre de gouverneurs qui viennent d'être élus l'avaient inclus dans leur programme.
Alors, comment expliquer, Ivana Obradovic, ce changement de paradigme, ce passage d'une criminalisation des drogues à la légalisation du cannabis dans certains États? Vous avez parlé de la légalisation du cannabis thérapeutique dans les années 90 dans certains États américains. Mais dès les années 70, en fait, certains États décriminalisent la possession de petites quantités de drogues. Et peut-être aussi que cette avancée vers la légalisation est liée au fait qu'en avril 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies prend acte de l'échec de la guerre contre la drogue. Alors, quels sont les arguments qui sont en général avancés, mobilisés par les partisans de cette légalisation du cannabis ?
Alors vous avez raison de souligner que c'est une petite révolution que cette session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en avril 2016 qui a mis en débat la question de la guerre à la drogue. Par ailleurs, il faut aussi préciser que cette session extraordinaire, elle a été avancée à la demande de plusieurs chefs d'État de pays d'Amérique latine. Lassés de voir le narcotrafic enrayer le fonctionnement de la démocratie, puisque c'est vrai qu'en Amérique latine, la question des drogues, c'est aussi un enjeu démocratique, puisque le narcotrafic a des effets en termes de corruption sur le fonctionnement de l'État. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et cette assemblée générale, elle a posé clairement la question de l'efficacité de la guerre à la drogue. Quelques années après un rapport de la Commission mondiale sur la politique des drogues, qui elle s'était clairement prononcée en faveur d'un arrêt de la prohibition pour explorer des politiques alternatives plutôt centrées sur la régulation. Et puis, par ailleurs, le dernier point sur cette Assemblée générale, c'est que l'Uruguay, on a profité pour faire valoir la Charte des Nations Unies, qui est donc au-dessus des conventions internationales, avec l'idée que c'était une manière de respecter les droits humains, que de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas obligés de passer par le marché noir pour s'approvisionner en cannabis.
Les arguments souvent avancés, en effet, c'est l'idée de lutter contre le marché noir, l'idée de lutter contre la consommation des plus jeunes en particulier. Ce sont des enjeux de santé publique. Et en l'occurrence, au Canada, c'est une loi fédérale qui légalise l'usage récréatif du cannabis, contrairement aux États-Unis. Une loi qui est entrée en vigueur le 17 octobre dernier, après un siècle de prohibition et un demi-siècle de débats parlementaires. Alors comment s'est produit au Canada ce changement de mentalité vis-à-vis du cannabis ?
Alors au Canada, cette réforme qui a été imposée par le gouvernement nouvellement élu, à la tête duquel est Justin Trudeau, qui est le fils d'un premier ministre, d'un ancien premier ministre du Canada pendant 15 ans, qui était lui-même un personnage assez charismatique, qui apportait un certain nombre de réformes des mœurs, notamment sur le divorce, sur la légalisation de l'IVG.
En l'occurrence, c'était un argument de campagne de Justin Trudeau.
Alors voilà, c'est ça, c'était une campagne qui visait à ce que le Parti libéral gagne à nouveau des élections générales, ce qui n'avait pas été le cas pendant des décennies. Donc la campagne de Trudeau, elle a été axée sur le thème du changement, après 10 ans de gouvernement conservateur, et la légalisation du cannabis, présentée comme une manière de protéger les enfants, les mineurs, a particulièrement bien fonctionné dans l'opinion publique. Donc contrairement à d'autres pays, je pense notamment à l'Uruguay, dont on va parler tout à l'heure, où la réforme a été imposée au niveau présidentiel, mais contre l'opinion publique, au Canada, c'était exactement le contraire. Il y avait à peu près 2/3 de la population qui était tout à fait favorable à une évolution dans ce sens.
Vous parlez de l'Uruguay, Ivana Obradovic. Effectivement, c'est le pays véritablement pionnier en la matière, puisqu'il a légalisé le cannabis récréatif dès 2013. Et c'est lié au fait que, historiquement, c'est un pays d'avant-garde en matière de législation sociale.
C'est vrai que l'Uruguay a été un des premiers États latino-américains à imposer le droit de vote, le droit de vote des femmes, à légaliser l'IVG, à autoriser le mariage homosexuel. Donc c'est un tout petit pays d'Amérique latine, 3,5 millions d'habitants, qui se trouve entre des géants de ce continent qui, pour certains, ont des problématiques fortes liées au narcotrafic. Je pense au Mexique, qui n'est pas tout à fait un pays voisin, mais qui est dans cette région. Et donc l'Uruguay, justement, avait cette idée que quelqu'un fasse le premier pas en Amérique latine. C'était les termes du président Mujica, qui a impulsé cette réforme. Et donc l'Uruguay s'est acheminé vers une réforme volontairement révolutionnaire et présentée comme telle par Mujica.
Alors je vous propose justement d'écouter l'ancien président José Mujica à l'origine de cette légalisation. Il était interviewé par le magazine Vice en 2014 et il répondait à cette question: le marché légal du cannabis va-t-il éradiquer le marché noir?
Ça ne va pas disparaître, mais nous allons leur compliquer la vie autant que nous le pouvons. Mais il est vrai que ça ne disparaîtra pas. Nous voulons éradiquer les racines économiques du problème. Car c'est un commerce. Un commerce pratiquement monopolistique pour ceux qui le pratiquent. Et nous voulons créer une grande concurrence qui est le gouvernement avec tout le pouvoir de l'État. Nous allons commencer une expérience. Il est quasiment certain que nous allons nous retrouver sous les projecteurs internationaux. La réalité, c'est que nous sommes une boîte de pétri. Nous sommes un laboratoire social. Nous voulons contribuer avec une expérience qui pourra être utile au monde, en créant de meilleures politiques.
Nous sommes un laboratoire social, dit l'ancien président Mourica. On est loin ici des considérations purement économiques, Ivana Obradovic.
C'est vrai que l'Uruguay a été justement le pays qui a essayé de proposer une réforme de légalisation du cannabis axée sur la santé publique, la protection des mineurs et aussi la sécurité publique avec l'idée d'éradiquer le marché noir et de faire en sorte que les jeunes consommateurs en particulier ne se retrouvent pas au contact de ce marché noir et ne soient pas tentés d'aller vers des produits plus dangereux que le cannabis. Par ailleurs, l'Uruguay, au moment de cette réforme, avait une problématique avec un cannabis importé du Paraguay de très mauvaise qualité, le prensado, qui faisait des ravages dans la population jeune, de même que la pasta base, qui est une pâte de cocaïne, dénommée cocaïne du pauvre, hein, qui était vendue à très bas prix, hein, 2 dollars le gramme, et qui avait une dynamique d'expansion aussi dans le public jeune. Donc l'idée, c'était vraiment de couper l'herbe sous le pied des trafiquants, pour faire un mauvais jeu de mots, mais aussi de protéger la jeunesse et de pouvoir mettre en place des politiques de prévention dans un cadre légal.
Oui, parce qu'on assiste à ce moment-là, à la fin des années 90, à une augmentation de la consommation assez importante, et cela alors que la loi uruguayenne autorise en réalité la possession de cannabis en très petite quantité depuis 1974. Et donc c'est face à cette montée de la violence et pour lutter contre les narcotrafiquants que ce cadre légal va être assoupli, Ivana Obradovic.
Et c'est aussi dans l'idée de porter une politique publique qui soit centrée sur la réduction des dommages, avec cette idée de prévention. La seule chose, c'est qu'en Uruguay, les moyens financiers ne sont pas à la hauteur de ces ambitions, puisque pour faire de la prévention, il faut des budgets conséquents. Ça n'a pas encore été le cas, et justement parce que ce modèle de légalisation du cannabis n'a pas été construit sur l'idée de faire des profits sur le dos des consommateurs, il y a un problème d'argent dans les caisses de l'État uruguayen pour financer cette réforme dans le sens où elle était souhaitée par le président Mujica.
Vous parlez en Uruguay d'une impulsion venue du sommet de l'État, d'une logique top-down. Au contraire, aux États-Unis, il y a eu une mobilisation d'une partie de la société civile et la légalisation du cannabis a été approuvée par référendum dans tous les États concernés.
Sur les 10 États qui ont légalisé l'usage récréatif, 9 sont passés par la voie du référendum, la voie des urnes. Il y en a un seul, le Vermont, qui est passé par la voie législative. Et dans les mois qui viennent, les États qui pourraient légaliser pourraient aussi passer par la voie législative, et notamment par le biais des gouverneurs, en particulier les gouverneurs démocrates qui ont été récemment élus dans certains États, je pense à l'Illinois ou au Connecticut.
Donc là où la majorité de la population était opposée à la légalisation du cannabis en Uruguay, par exemple, au contraire, dans les États américains concernés, il y a un fort lobbying pour favoriser cette légalisation. Et dans ces lobbying, face à eux, il y a les lobbies du tabac, de l'alcool et de l'industrie pharmaceutique qui mènent une intense campagne contre la légalisation. C'est parce qu'ils redoutent tout simplement la concurrence. Ivana Obradovic.
Alors pour l'industrie de l'alcool, c'est tout à fait évident, en particulier les brassiculteurs, puisque le cannabis et l'alcool sont consommés dans des circonstances assez similaires, en usage récréatif en tout cas, en soirée, entre amis, pour se détendre. Donc il y a effectivement cette crainte de la concurrence qui explique qu'un certain nombre de grands groupes industriels de l'alcool se rapprochent du secteur du cannabis et rachètent des parts, soit parmi les producteurs de cannabis médical qui se mettent maintenant au cannabis à usage récréatif, soit effectivement pour créer des fusions-acquisitions et développer de nouvelles boissons à base de cannabis.
Alors on va venir sur ces différents aspects, mais on a parlé du rôle joué par l'ancien président José Mujica, du rôle joué par Justin Trudeau. Quel a été celui qui a été joué par Barack Obama, qui est élu donc en 2008, dans les évolutions législatives qui ont eu lieu dans plusieurs États? Quel est son rôle, Ivana Obradovic?
Alors Barack Obama n'a pas souhaité justement prendre position en faveur de ces initiatives. En revanche, il a mené une politique des petits pas, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte de ne pas décourager les États qui avaient légalisé l'usage de cannabis médical. Donc il a fait prendre une circulaire par son ministre de la Justice pour encourager les procureurs à ne pas poursuivre les États qui avaient mis en place un régime de cannabis médical. Ça, c'était le premier acte d'Obama dans le sens d'un signal d'ouverture à l'égard de ces initiatives. Le deuxième, c'était à nouveau par le biais d'une circulaire aux procureurs généraux en 2013 qui incitait à laisser tranquille, entre guillemets, les quelques États qui, à ce stade, autrement dit le Colorado et l'État de Washington, qui avaient légalisé le cannabis à usage récréatif.
Et alors la logique a encore été différente au Canada, si on poursuit notre comparaison sur la façon dont cette légalisation est survenue dans les différents pays dont on parle. Dans le cas du Canada, il y a eu des consultations citoyennes avant que le projet de loi soit adopté en juin 2018 par le Sénat. À la fois des consultations, à la fois c'est venu du sommet de l'État.
C'est un processus qui a été plus long au Canada parce que le gouvernement y était favorable, mais les gouvernements provinciaux n'étaient pas toujours d'accord avec l'idée de légaliser, en particulier le Québec, qui était extrêmement opposé à cette réforme.
Pour quelles raisons ?
Pour des raisons de protection des mineurs. Et d'ailleurs, il y a eu un changement de gouvernement très récemment au Québec la coalition du Québec qui est arrivée au pouvoir et qui va revenir sur le régime de régulation qui est mis en place aujourd'hui, avec l'idée de repousser l'âge d'accès au marché qui est aujourd'hui de 18 ans et qui pourrait passer à 21 ans dans quelques années, et puis surtout interdire la consommation dans les lieux publics. Il y a eu justement un dessin de presse assez amusant qui titrait « Légalisation du cannabis au Québec » et qui montrait des panneaux d'interdiction à peu près partout, dans la rue, dans les parcs, y compris au domicile privé, puisque la loi du Québec prévoit que les propriétaires immobiliers puissent interdire à leurs locataires de consommer à domicile.
Oui, parce que l'idée de cette loi sur la légalisation du cannabis, c'est de donner un assez large pouvoir aux provinces, Ivana Obradovic. On leur laisse une forte marge de manœuvre.
C'est un vrai État fédéral, c'est-à-dire que les provinces ont une autonomie importante, en particulier dans le domaine de la santé publique, mais dans toute une série d'autres secteurs d'action publique. Et donc, ce qui a été convenu, ça a été un arrangement, en quelque sorte, entre le gouvernement fédéral et les provinces, ça a été d'affecter 75% des recettes issues de la légalisation du cannabis aux provinces, plutôt que seulement 50% comme c'était prévu au départ. Donc, c'était une manière aussi d'essayer de séduire les provinces avec cette idée d'une manne fiscale qui pourrait leur tomber entre les mains et être à disposition pour faire de la prévention, pour financer la recherche, l'éducation, etc.
Alors, vous l'avez dit, Ivana Obradovic, le marché du cannabis thérapeutique semble avoir constitué un préalable à la légalisation du cannabis récréatif. En l'occurrence, à l'exception de l'Uruguay, tous les pays qui ont autorisé le cannabis récréatif avaient d'abord autorisé le cannabis médical.
Tous les États, oui, c'est vrai.
C'est ce qu'on observe, et notamment le Canada qui a été pionnier en 2001. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de pays dans le monde qui autorisent le cannabis thérapeutique. Mais alors, toute la question, c'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cannabis thérapeutique ? Vous préférez parler de cannabis à usage médical. Alors, quelle différence faites-vous ? Il y a peut-être plusieurs types d'usages médicaux du cannabis ?
Alors, moi, si je plaide pour une formulation plus prudente, c'est sur la base des preuves scientifiques. Il y a un certain nombre d'États qui ont légalisé le cannabis à usage médical, y compris pour des indications où on n'a aujourd'hui aucune preuve scientifique d'efficacité. Par exemple, pour soigner la migraine ou le mal de dos, il n'y a absolument aucune étude qui montre que le cannabis est efficace. Pourtant, la Californie autorise ce type d'usage. En revanche, il y a effectivement des pathologies, des types d'affections où le cannabis sous forme de CBD en particulier peut être efficace pour soulager la nausée des patients atteints du cancer ou du VIH, pour la sclérose en plaques, pour limiter les spasmes musculaires. Là, le cannabis sous forme de CBD a effectivement un effet intéressant. En tout cas, c'est ce que disent les études scientifiques. Quand on parle de cannabis thérapeutique, on induit un petit peu les gens en erreur. Ça donne l'impression que ça peut être un médicament qui soigne des choses. Or, c'est plutôt une molécule qui peut soulager certains patients, dans des indications très précises.
Et peut-être qu'il faut faire la différence entre les pays qui autorisent le cannabis inhalé, ingéré sous forme d'infusion ou fumé pour des usages médicaux, et les pays qui autorisent des médicaments contenant du cannabis, qui est par exemple le cas de la France depuis 2013. Alors quels sont les débats qui se jouent autour de cette question? Est-ce que la ligne de fracture, elle est entre précisément les substances dont on a prouvé scientifiquement qu'elles avaient une efficacité et les autres?
Alors en France, l'accès au cannabis à usage médical est pas en pratique encore très très développé. Il y a eu effectivement un décret de 2013, mais du fait d'un conflit avec le laboratoire de production sur le prix, il n'est pas mis sur le marché sous forme de sativex. C'est une forme particulière de cannabis sous forme de spray. Dernièrement, à la fin de l'année 2018, il y a un comité de l'Agence du médicament qui s'est réuni sur la question et qui préconise d'étudier l'hypothèse d'une mise en œuvre du cannabis à usage médical en France. Donc,
mais alors, quelle différence avec ce qui existe déjà, puisque vous parlez de ce décret? Alors, c'est simplement une question de mise en application, puisqu'effectivement, ça va être testé, ce cannabis thérapeutique en France au cours de l'année.
Alors c'est la différence, elle est sur les indications thérapeutiques d'abord, et puis sur les formes de cannabis qui sont mises sur le marché. C'est-à-dire que ça peut être consommé sous forme de gélules, de spray, etc. Il y a des pays qui ont légalisé l'usage médical, qui autorisent même le cannabis fumé. Ça peut être des huiles, ça peut être même des produits alimentaires, des sodas dans certains pays. Ils sont pas très nombreux, mais il en existe.
C'est principalement la
gamme
forme
est assez illimitée.
Qui est un débat. En tout cas, la légalisation du cannabis thérapeutique a pu entraîner de nombreux abus. Beaucoup de gens se sont procurés des recommandations médicales pour obtenir du cannabis à des fins récréatives aux États-Unis, par exemple. Et c'est cette hypocrisie que dénonçait en 2010 Keith Strope, le fondateur d'une association américaine défendant la légalisation du cannabis récréatif. On l'écoute.
La plupart des personnes qui en usent le font pour des patients atteints de cancer et qui sont sous chimiothérapie. Il y a des gens qui souffrent de sclérose en plaques, d'autres qui souffrent de graves maladies de telle façon que la marijuana leur est incontestablement d'une grande aide. Ces gens devraient évidemment être en première ligne. Il est difficile d'imaginer que quiconque dans ce pays pourrait vouloir leur retirer ce traitement efficace. Les enquêtes montrent que presque 80% de la population américaine supporte ça. Maintenant, ayant dit ça, je vais vous expliquer des choses normales que nous devrions séparer entre usagers médicaux et récréatifs. Ça fait 44 ans que je fume. J'ai fumé pour la première fois quand j'étais étudiant à l'école de droit de Georgetown. Je ne suis pas un usager médical. Je fume dans la soirée quand je me relaxe et que je regarde la télé. Je me verse un verre de vin et je me roule un joint, mais ce n'est absolument pas un usage médical. Je ne veux donc pas me faire passer pour malade. Je ne veux pas déménager en Californie et obtenir une ordonnance du médecin. Je pense que les deux sont malhonnêtes, mais je pense aussi qu'il est important que nous remportions l'argument politique qu'il n'y a rien de répréhensible à un usage responsable de la marijuana. Et je ne vais pas demander à un médecin la permission de fumer.
La légalisation du cannabis thérapeutique avait entraîné le développement d'un marché gris, Ivana Obradovic, avec des dispensaires qui échappaient au contrôle de l'État. Il y a eu beaucoup d'abus.
C'est quelque chose qu'on a vu aux États-Unis, aussi au Canada, avec le développement de faux dispensaires qui n'en ont que le nom et qui se présentent plutôt comme des boutiques qui vendent des produits dérivés du cannabis. Par ailleurs, l'autorisation d'avoir accès à du cannabis à usage médical se fait pas toujours justement par des professionnels de santé. Il y a des États américains comme le Colorado ou l'Oregon où il y a une figure qui a été créée par la loi de ces États qui s'appelle le tiers aidant, le caregiver, qui est autorisé à produire pour autrui, à condition de ne pas faire de bénéfice, c'est-à-dire de cultiver du cannabis à domicile et de le mettre à disposition d'une personne de sa connaissance. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune garantie médicale dans ce type de cas. Et effectivement, ce marché gris a été alimenté par un afflux d'usagers récréatifs qui n'étaient pas du tout dans un cadre thérapeutique.
Ce qui a pu justifier la légalisation du cannabis récréatif, puisqu'il y avait cette idée que de toute façon, ils arriveraient à s'en procurer.
Absolument. Et la difficulté, c'est que ça entraînait parfois des ruptures de stock, des ruptures dans l'offre, qui n'étaient plus suffisantes pour satisfaire les besoins des patients, qui avaient effectivement un besoin de cannabis médical au profit d'usagers récréatifs qui détournaient un petit peu ce système à leur fin.
Et ce qu'on observe, Ivana Obradovic, c'est que sur un plan plus économique, la légalisation du cannabis à usage médical a véritablement posé les bases d'un marché professionnel du cannabis, en plus de contribuer à faire évoluer les mentalités.
Ça a été clairement un des enjeux de la légalisation plus récente de l'usage récréatif et du marché du cannabis légal, de reprendre la main justement sur ce marché du cannabis médical qui s'était un peu développé dans les zones grises de la législation et que beaucoup d'États ne contrôlaient plus, que ce soit aux États-Unis ou dans certaines provinces canadiennes. Donc l'idée, c'était de profiter de la légalisation du récréatif pour mettre un peu plus de régulation dans le marché du médical.
Et c'est comme ça que plusieurs États américains ont par exemple poussé les dispensaires qui vendaient du cannabis médical vers le marché récréatif, avec l'objectif de travailler avec des partenaires déjà connus. Et donc ce qu'on constate, c'est que dans l'État de Washington, par exemple, il y a vraiment une superposition de la cartographie des points d'accès du cannabis médical et de celle des points de vente du cannabis récréatif. Alors, est-ce que c'est également ce qui s'est passé au Canada, Ivana Obradovic?
C'est également ce qui est en train de se passer au Canada. Dans la plupart des États américains, c'était ça. Dans l'Oregon, les premiers points d'accès au cannabis récréatif étaient justement les mêmes que ceux du cannabis médical. Alors, au Canada, c'est parfois compliqué de parler globalement du Canada parce que les régimes qui sont mis en place dans les différentes provinces sont assez différents les uns des autres, à la fois dans les autorisations et dans les modalités d'accès à l'offre. Donc, on peut le dire pour certaines provinces, mais pas toutes.
Il y a eu les mêmes dérives, en tout cas au Canada, où se sont développés des compassion clubs qui procurent du cannabis à des fins médicales, mais pour des pathologies qui n'étaient pas reconnues par l'organe de régulation canadien. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la légalisation du cannabis récréatif, comme on le disait, a été pensée afin de réguler ce marché du cannabis médical. Mais alors, quel bilan en a été tiré au niveau fédéral aux États-Unis, Ivana Obradovic? Car on voit ce qui se passe dans chaque État, mais quel regard est porté au niveau fédéral? Comme on l'a dit, il y a 30 États qui autorisent cet usage thérapeutique du cannabis aux États-Unis.
Il y en a même 32, puisque ça bouge assez vite. Pour l'instant, l'administration Trump s'est pas prononcée très directement sur le sujet. De la part de ceux qui sont inscrits dans ce marché, il y avait des craintes au moment de l'arrivée de Trump au pouvoir d'un retour en arrière. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de directive qui tende à pénaliser les États qui, quand même, vont à l'encontre de l'interdit fédéral sur le cannabis, que ce soit le récréatif ou le médical. Ça reste interdit au niveau fédéral. Ça reste interdit par les conventions internationales. Donc, ça fait partie des mouvements à surveiller dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent.
On va voir comment l'État met en place ce marché économique. Dans un instant, on fera un premier bilan, peut-être, de ces différentes légalisations du cannabis à des fins récréatives.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini. She grew up in an Indiana town, had a good looking mama who never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Away was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come.
come, cause I can't stay long.
Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in, and I'm tired of this town again.
Market Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road.
Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in, and I'm tired of this town again.
Mary Jane's Last Dance de Tom Petty and the Heartbreakers. Nous poursuivons notre exploration du business légal de l'herbe avec Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Alors, dans les États américains qui ont autorisé le cannabis récréatif, de nouveaux types de licences ont vu le jour afin d'éviter des situations de monopole. Par exemple, dans l'État de Washington, il est interdit pour une entreprise qui a une licence de vendeur d'obtenir également une licence de distributeur. L'objectif, Ivana Obradovic, c'est que plus d'acteurs profitent de ce marché, même si en contrepartie, ce que ça implique, c'est des contrôles peut-être plus compliqués.
C'est pas l'orientation qui a été prise par tous les États américains qui ont légalisé à ce stade, mais dans l'État de Washington, c'est vrai qu'il y a cette idée d'interdire l'intégration verticale. Comme vous l'avez dit, il y a aussi l'idée que il n'y ait pas dans une seule ville plus d'un tiers des licences qui soient possédées par le même groupe, la même entreprise. Et puis, dans les derniers États qui ont légalisé, je pense en particulier à la Californie, il y a vraiment cette idée du « small is beautiful » avec l'idée que tout le monde puisse profiter de ce nouveau marché et l'idée aussi de protéger les petits producteurs pour éviter de créer un « big cannabis » comme on parle de « big tobacco » qui regroupe l'ensemble de ces entreprises qui font énormément de profits en diffusant parfois des fausses études scientifiques et en achetant, entre guillemets, des chercheurs et en faisant du lobbying très poussé, y compris auprès des cercles politiques.
Donc c'est vraiment une logique antitrust, mais du coup ça complique énormément la régulation.
Alors c'est une logique antitrust dans certains États seulement, j'insiste là-dessus, oui. Parce qu'au Colorado, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Dans les premières années, on a fait une enquête avec l'Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice, qui s'appelle Canalex, dont les résultats sont en ligne, qui montre justement que les premiers acteurs du marché, les premiers entrepreneurs au Colorado, avaient bien conscience qu'ils en auraient pas pour longtemps et que ça serait pour eux un emploi à l'échelle de quelques années, mais que le risque de monopole était réel et c'est effectivement un petit peu ce qui se passe au Colorado aujourd'hui.
Au contraire, dans l'industrie du cannabis au Canada, il y a des géants qui ont émergé comme Exocorp et ce sont ces oligopoles que dénonce Hugo Saint-Onge. Il est porte-parole du parti Blockpot, un parti québécois qui soutient la légalisation du cannabis.
C'est un renouvellement de la prohibition sous une nouvelle forme, d'une autre façon. La logique derrière ça, c'est de protéger les investissements des amis du régime. Il y a quoi? Une centaine d'entreprises au Canada qui ont été autorisées pour du cannabis médical. 80 de ces entreprises appartiennent à deux conglomérats. Cet oligopole-là sera protégé par le code criminel et la police. Je connais très peu de marché économique au Canada qui est protégé de la sorte par le code criminel, à part peut-être l'armement, le plutonium, ou enfin, vous voyez le type d'organisation, là, de production qui est vraiment tout autre que celle d'une plante verte. On oublie que c'est une plante verte.
On oublie que c'est une plante verte. Que vous inspirent les propos du Hugo Saint-Onge, Ivana Obradovic? Les petits producteurs ont été marginalisés au profit d'oligopoles au Canada?
Ça, c'est la vraie nouveauté au Canada, d'avoir ces acteurs du cannabis médical qui ont su prendre la vague de la légalisation du récréatif, avec maintenant des entreprises qui sont cotées en bourse, qui font déjà des profits très élevés, qui se rapprochent d'autres groupes. On parlait tout à l'heure de l'industrie de l'alcool, mais il y a aussi l'industrie du tabac qui s'en est mêlée, et puis des laboratoires pharmaceutiques qui entrent dans le jeu depuis peu. Donc ce risque de monopolisation du marché au Canada, il est important, en particulier dans les provinces où la régulation relève du secteur privé, parce que c'est pas le cas de toutes. Là encore, c'est une particularité. On a trois modèles de vente au détail. Un qui est exclusivement public, un qui est exclusivement privé, et un troisième qui est un modèle mixte qui associe le public et le privé. Donc ça sera intéressant en termes d'évaluation et de politique publique de voir justement ce que donnent ces différents modèles de régulation et quel est leur impact à la fois sur le plan économique et en termes de santé publique.
Il y a eu des fusions-acquisitions au Canada qui ont vraiment créé des mastodontes et aujourd'hui les petits producteurs qui vendent aux dispensaires ont du mal à obtenir des licences gouvernementales. Donc on voit qu'il y a vraiment ce mouvement entre des petits acteurs marginalisés et de très très grosses industries qui émergent, Ivana Obradovic.
Au Canada, c'est très net. Alors on va voir l'évolution dans les années qui viennent. Ce qu'on sait pour le moment, des retours qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une situation de pénurie dans les jours qui ont suivi l'entrée en vigueur de la légalisation. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40% de la demande à laquelle les fournisseurs de cannabis agréés ont pu répondre. En tout cas au Québec, c'est ce qui est revenu. Dans la première semaine de la légalisation, il y a 12 boutiques qui ont ouvert à l'échelle du Québec. Elles ont très vite été en rupture de stock au point d'être obligées de limiter leur plage d'ouverture et de limiter les horaires d'ouverture des boutiques du jeudi au dimanche pour pouvoir satisfaire la demande.
Donc ça irait dans le sens d'une multiplication des acteurs, selon vous, ce risque d'une rupture de stock ?
C'est difficile à dire à ce stade.
Alors en tout cas en Uruguay, l'État a la concentration de la production s'est faite par deux grandes entreprises et en tout cas c'est quelque chose qui est important à souligner, c'est que en l'occurrence ça ne permet pas de répondre aux besoins de la population et c'est donc le marché noir qui prend le relais aujourd'hui en Uruguay. Donc c'est quand même une situation assez paradoxale. Ivana Obradovic.
Au Canada, vous voulez dire.
En Uruguay, il y a deux grandes entreprises qui ne parviennent pas à répondre aux besoins de la population.
Ah oui, alors effectivement en Uruguay, il y a deux entreprises qui ont été agréées pour la production, qui sont des entreprises nationales, parce qu'il y avait pas mal de candidats, notamment dans les entreprises israéliennes ou canadiennes, justement. Donc, c'est deux entreprises nationales qui ont été choisies et qui produisent dans le plus grand secret, à la fois sur le lieu de production, sur les quantités produites, le cannabis qui est mis à disposition en pharmacie. Il faut quand même préciser en Uruguay que c'est un système d'accès au cannabis qui est un peu particulier, puisque la vente en pharmacie a pris 3 ans et demi de retard par rapport à ce qui était prévu. Donc ça n'a pas été en 2014, mais seulement en juillet 2017 qu'elle a été accessible pour les consommateurs. Ce qui veut dire que c'est plutôt les deux autres voies d'approvisionnement qui sont prévues par la loi en Uruguay, c'est-à-dire les cannabis social clubs, qui sont des sortes de coopératives de consommateurs, ou l'autoculture à domicile, qui pour l'instant sont mises en œuvre et répondent à la demande des consommateurs.
Et ce qui a entraîné ces grands retards dans la commercialisation du cannabis dont vous parlez, c'est le fait qu'en Uruguay, l'État a vraiment voulu tout superviser, que l'offre commerciale a été contrôlée tant au niveau de la qualité que du prix.
Exactement, le modèle uruguayen, c'est vraiment un modèle de contrôle par l'État, avec l'idée d'avoir une traçabilité de la production jusqu'à la vente, d'avoir aussi un enregistrement à la fois des entreprises qui sont sur le marché, bon, qui sont pas très nombreuses, mais aussi de ceux qui vendent, notamment les pharmacies. Donc il y a 1% seulement des pharmacies uruguayennes qui acceptent aujourd'hui de mettre en vente du cannabis.
Donc on voit que la population a encore du mal à suivre, parce qu'il y a aussi cette idée que les mentalités en faveur du cannabis n'évoluent pas à la même vitesse, si je puis dire, que la volonté gouvernementale ?
L'opinion publique en Uruguay est toujours opposée à la légalisation. Et c'est vrai que le fait que la mise en œuvre prenne autant de temps ne va pas non plus dans le sens d'une réassurance de l'opinion publique. Par ailleurs, ce retard, il s'explique aussi par les réticences de l'ordre des pharmaciens, qui étaient opposés à l'idée de vendre un produit à usage récréatif dans les pharmacies et qui craignaient aussi des braquages et d'avoir une partie de leur stock qui soit captée par le marché noir et revendue sur le marché illicite.
Vous avez parlé, Irina Obradovic, du prix, la question du prix et de la juste taxation est en effet centrale. Alors, comment établir une taxation qui apporte des recettes à l'État, mais qui ne soit pas trop élevée afin de ne pas alimenter le marché noir ? C'est la question à laquelle sont confrontés les États et les pays dont on parle.
C'est toute la question, en effet, et il y a pas mal d'études là-dessus pour essayer de trouver la taxe d'équilibre et le prix d'équilibre du cannabis aussi, même si c'est deux questions différentes. Dans les premiers États qui ont légalisé aux États-Unis, c'était des niveaux de taxes parfois assez élevés, qui allaient jusqu'à 30%. Aujourd'hui, il semblerait que la réflexion aux États-Unis, ça soit plutôt de dire qu'autour de 10 à 12% de taxation, on arrive à peu près à concurrencer le marché noir. Mais le marché noir reste présent aujourd'hui. En Uruguay, c'est une politique assez différente qui a été appliquée, avec l'idée justement de ne pas faire de profit sur le terrain du cannabis. Donc c'est un cannabis assez faiblement dosé, assez peu cher, qui a été mis en place, mis en vente dans les pharmacies.
Oui, parce qu'il y a à la fois l'idée de soutenir le nouveau secteur industriel du cannabis légal pour des raisons purement économiques, et en même temps, il y a l'idée que des taxes trop faibles pousserait les jeunes à la consommation. Donc il y a une difficulté, comme ça, un arbitrage à faire chez tous ces États dont on parle.
C'est vraiment un dilemme et qui se pose d'autant plus que l'évolution qu'on observe, c'est une baisse des prix du cannabis légal, en particulier aux États-Unis. On est aujourd'hui autour de 5 euros, en convertissant autour de 5 euros le gramme de cannabis, ce qui veut dire que le cannabis présent sur le marché noir a tendance lui aussi à réduire son prix. Or, on sait que l'accessibilité, en particulier l'accessibilité financière du cannabis, est particulièrement, pousse les jeunes à la consommation. Donc, en termes de santé publique, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais là encore, il y a des mesures d'interdiction qui ont accompagné la légalisation dans tous ces États. Donc, a priori, l'accès aux jeunes est plus compliqué qu'auparavant.
Vous parlez de chute des prix. La culture du libéralisme aux États-Unis a poussé les États à ne peut-être pas s'occuper de la question du prix de la même façon qu'ailleurs. En l'occurrence, dans l'État de Washington, le prix du cannabis a particulièrement chuté. Est-ce que cela a chuté au point de menacer aujourd'hui les profits des entreprises ou de faire peur aux investisseurs ?
Alors, pas à ce point-là, ce stade, mais ce qu'il faut souligner, c'est que non seulement les prix ont chuté, mais en plus la concentration des produits à base de cannabis qu'on trouve sur le marché légal a plutôt augmenté. C'est-à-dire que certains auteurs parlent de légalisation du THC, qui est le principe actif du cannabis, celui qui produit les effets psychoactifs. Effectivement, on a un prix en baisse, mais surtout une concentration qui augmente, donc un prix qui baisse vraiment si on le rapporte au gramme et à la concentration du produit qu'on est susceptible d'acheter sur le marché légal.
Et en même temps, on assiste à une certaine montée de l'inquiétude parce que de nombreuses start-up ont vu le jour aux États-Unis, au Canada, et la bourse de Toronto, vous l'avez dit, compte désormais plusieurs entreprises de cannabis cotées. Et il y a des inquiétudes autour d'un risque de bulle spéculative. Qu'est-ce que vous en pensez, Ivana Obradovic ?
Alors, c'est difficile à dire et je ne suis pas spécialiste des mouvements boursiers, mais ça a été l'introduction en bourse d'entreprises productrice de cannabis, ça a été une révolution. Et quand on voit la vitesse à laquelle ces changements se produisent, c'est quand même un des secteurs industriels avec un taux de croissance à deux chiffres, aux États-Unis en tout cas. Ça risque d'être la même chose au Canada. Donc c'est vrai que le boom de ce secteur économique est assez impressionnant. D'après certaines estimations, D'ici une dizaine d'années, ça pourrait représenter à peu près un cinquième du marché de l'alcool dans le monde. Donc on voit que donc c'est une force de frappe qui est assez importante.
Et alors les industriels travaillent sur de nouveaux produits dérivés du cannabis. Écoutons Bruce Linton, le PDG de Canopy Growth, un producteur canadien qui souhaite lancer une boisson infusée au cannabidiol, l'ingrédient non psychoactif du cannabis. Il s'exprimait sur CNBC en juillet 2018.
Quand le cannabis sera légalisé, les gens vont arriver dans mon magasin et ils vont avoir beaucoup de questions à poser. Or, si on parvient à faire en sorte qu'ils aient l'impression d'être dans un Apple Store, entouré de conseillers, où l'expérience devient un objectif en soi, devinez qui reviendra dans mon magasin. Ce qu'on veut, c'est donc être prêt pour le moment où on sortira de la prohibition. Du coup, on soigne la présentation. On a des stocks pour 9 mois. Et dans la seconde moitié de l'année 2019, quand on commencera à mettre les boissons sur les étagères, là, on pourra se positionner sur le marché. Pour l'instant, notre marque n'a pas du tout d'exposition au Canada. Le produit n'existe pas encore. Donc on met d'ores et déjà le paquet. Et c'est comme ça qu'on récupérera un maximum de parts de marché.
Quand on entend Bruce Linton, est-ce qu'on se dit qu'il y a un risque, Ivana Obradovic, que les produits dérivés du cannabis deviennent finalement des marchandises comme les autres, avec les mêmes stratégies de marketing, par exemple ?
C'est déjà le cas dans certains États américains. Au Canada, en revanche, les produits alimentaires et les boissons à base de cannabis ne sont pas encore autorisés. Mais d'ici la fin de l'année, il va y avoir justement cette deuxième vague de légalisation qui est redoutée par certains avec ce qu'on appelle les edibles, c'est-à-dire les produits alimentaires infusés au cannabis. Ce qu'on peut dire plus largement, c'est que le Canada a vraiment gagné une sorte de prime à l'investissement précoce en investissant ce marché avant les États-Unis, puisque l'interdit fédéral persiste aux États-Unis. C'est un peu ce qui s'était passé avec la prohibition de l'alcool il y a un siècle à peu près, où l'entreprise Seagram canadienne avait réussi à investir le marché de l'alcool en développant plus de 250 marques et avait finalement griller la priorité, si je puis dire un peu familièrement, aux États-Unis. Donc là, dans le contexte de réduction de la dépendance commerciale du Canada à l'égard des États-Unis, ce mouvement sur le cannabis, il peut se comprendre aussi comme une stratégie économique de la part de ce pays.
Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, Ivana Obradovic, au bilan qu'on peut tirer de cette légalisation du cannabis. Et d'abord, est-ce que les recettes fiscales ont été à la hauteur des attentes aux États-Unis, en l'occurrence ? Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce qui pouvait être retiré au niveau fiscal ?
Les recettes fiscales sont assez importantes, ça se chiffre en centaines de millions de dollars par État et par année. Au Colorado, c'est 250 millions par exemple au cours de la dernière année. Par ailleurs, il y a un secteur en voie d'intégration qui intègre le cannabis médical et le cannabis récréatif. Donc c'est un marché qui pèse à peu près 7 milliards de dollars dans l'ensemble du monde, sachant que l'essentiel est aux États-Unis aujourd'hui. Après, quand on prend un peu de recul, ça représente à peu près 1% du PIB dans les différents États américains. Donc il faut aussi relativiser ce succès. Mais c'est vrai que le mouvement de croissance est important et c'est une manne fiscale qui sert à rénover des écoles, à financer la recherche,
l'éducation. Et qui peut aussi être allouée à des problèmes d'addiction, ce qui joue aussi en faveur de cette légalisation du cannabis.
Exactement. Ou à la prévention. Ça n'a pas encore été beaucoup le cas. Aux États-Unis en tout cas, mais ça pourrait l'être au Canada, qui a une plus forte tradition de prévention et de réflexion sur les politiques publiques efficaces à long terme.
1% du PIB dans les États américains concernés, nous dites-vous. Mais alors plus globalement, quels ont été les bénéfices économiques de la légalisation du cannabis récréatif ? Quelles différentes formes est-ce que cela a pris, et notamment en termes d'emplois créés, Ivana Obradovic ?
Alors en termes d'emploi, même si c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les sources qui sont un peu jugées parties, qui cherchent à accréditer l'idée d'un boom extraordinaire, donc il faut prendre ces chiffres avec prudence, mais on serait entre 150 000 et 230 000 emplois qui seraient générés par la filière du cannabis aux États-Unis aujourd'hui. Donc ça comprend tous les secteurs, à la fois la production, la vente, mais aussi tout ce qui relève des biotechnologies, du conseil juridique. Il y a toute une myriade d'activités économiques qui ont essaimé dans la lignée de la légalisation du cannabis, et aussi toute une économie indirecte liée au cannabis, le tourisme par exemple, la sécurité privée également, puisqu'il y a une obligation de vidéosurveillance dans tous les sites de production. Donc voilà, on voit que c'est effectivement un argument en termes d'emploi qui a pu peser. Au Colorado, dans la première année, c'était à peu près 20 000 emplois qui ont été créés en une année.
Donc une véritable manne économique. Et alors, l'autre grande question qui se pose évidemment, c'est comment la consommation a évolué avec cette légalisation aux États-Unis, et notamment la consommation des plus jeunes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Yana Obradovic?
Les statistiques sont assez claires, il n'y a pas eu de hausse de la consommation chez les mineurs. Il y a même eu plutôt une baisse au Colorado et dans l'État de Washington. En revanche, parmi les adultes, il y a un mouvement à la hausse qui est assez net. Alors pour l'interpréter, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a des nouveaux usagers qui se sont mis au cannabis du fait de la légalisation? Ça, on peut difficilement le dire. Est-ce qu'il y a une hausse des fréquences de consommation parmi ceux qui consommaient déjà du cannabis? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette légalisation, elle a segmenté les populations de consommateurs. C'est-à-dire qu'une partie des consommateurs sont restés sur le marché noir, où on trouve un cannabis moins cher. Donc les populations les plus précarisées ne s'approvisionnent pas dans les boutiques spécialisées de cannabis. En revanche, effectivement, la légalisation a plutôt bénéficié aux consommateurs les plus aisés qui sont contents de pouvoir acheter dans une boutique sans risque d'interpellation, sans risque d'être en contact avec des criminels ou des usagers revendeurs recommandables.
20% des consommateurs qui achèteraient 80 à 90% de la vente légale de cannabis aux États-Unis. C'est un chiffre qu'on a pu voir passer, et peut-être qu'on peut y voir plus clair en regardant les conséquences sur la santé publique, à la fois aux États-Unis et au Canada. On a assisté à une hausse des consultations en urgence et des hospitalisations liées à l'usage du cannabis. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
On peut l'expliquer par deux choses. Il y a eu un certain nombre d'intoxications aiguës qui ont conduit des jeunes ou des moins jeunes aux urgences, qui étaient souvent liées à des produits alimentaires. C'est-à-dire que sans habitude de consommer des produits alimentaires, on peut s'attendre à avoir des effets assez rapidement, mais c'est pas tout à fait le cas. Ça prend plus de temps qu'en fumant le cannabis. Donc certains ont ingéré une boîte entière de cookies, puis une deuxième, et ont fait un bad trip et se sont retrouvés aux urgences. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est qu'il y a aussi de nouvelles problématiques sanitaires qui se posent avec un cannabis qui est de plus en plus fortement dosé, avec des effets sur la santé qui peuvent être assez aigus.
Et en Uruguay, on parlait de la question de la hausse de la consommation. La légalisation n'a pas modifié une tendance à la hausse qui existait déjà, qu'on observe dans le pays depuis quoi, 10 ans, 20 ans ?
On n'a pas encore les derniers chiffres en Uruguay, ça met un petit peu de temps à venir, mais ils étaient clairement sur une dynamique de hausse, donc on saura, j'espère, assez prochainement si la légalisation a entravé ce mouvement ou l'a prolongé.
Ce sont des exemples étrangers qui ont en tout cas évidemment relancé le débat de la légalisation en France. On disait tout à l'heure que le cannabis thérapeutique allait être expérimenté en France dans l'année, mais le débat autour du cannabis récréatif est également présent. Est-ce que, selon vous, Ivana Obradovic, est-ce que l'on observe aux États-Unis ou au Canada serait transposable chez nous?
En tout cas, ça serait un pan de réflexion à mener pour savoir quels sont les facteurs culturels communs, les facteurs politiques, les facteurs sociaux communs. C'est assez difficile à dire en l'état. C'est vrai que c'est des traditions à la fois de consommation et de politique publique qui sont assez différentes. Donc sur ce qui pourrait se passer en Europe, c'est assez difficile de se prononcer à ce stade. En tout cas, il y a un premier pays européen qui parle de légaliser le cannabis à usage récréatif. C'est le Luxembourg qui a annoncé ça en novembre dernier. Donc peut-être qu'on aura de premières expériences de régulation en Europe assez rapidement.
L'argument économique, selon vous, il pourrait peser particulièrement dans les débats, étant donné ce qu'on ce qu'on observe aux États-Unis, en l'occurrence. On a plus parlé aux États-Unis qu'au Canada, où il est un petit peu trop tôt pour faire un bilan.
Dans un contexte de déficit et de crise des finances publiques, évidemment, un certain nombre d'États envisagent cette option et réfléchissent. Donc, selon les résultats de ce qui se passe outre-Atlantique sur la santé publique, voilà, cette perspective économique, elle sera vue comme plus ou moins alléchante. Si on voit que les niveaux de consommation continuent à baisser parmi les mineurs et qu'ils augmentent pas trop parmi les majeurs, c'est sûr que la question économique se pose différemment. Donc ça, c'est... on le verra dans les années qui viennent.
Pour conclure, peut-être, on parlait tout à l'heure de la question des mentalités, comment les mentalités peuvent évoluer. Vous diriez qu'aujourd'hui, les mentalités en Europe et en particulier en France sont assez différentes de ce qu'on a pu constater aux États-Unis. Il y a peut-être une différence culturelle. Comment on pourrait l'expliquer, Ivana Obradovic?
Alors en France, la particularité du débat, c'est qu'il est parfois un peu confus et qu'on a tendance à confondre dépénalisation, légalisation, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Il y a des propos qui sont parfois peu mesurés sur la question, donc c'est assez difficile de se faire une idée très claire des enjeux, des risques pour la santé publique, parce qu'il y en a, en particulier chez les plus jeunes, tant que le cerveau n'est pas terminé jusqu'à 25 ans, bah, tout produit psychoactif peut avoir des risques, l'alcool comme le cannabis. Donc voilà.
C'est un débat encore très passionné.
C'est ça.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la décision du gouvernement portugais de dépénaliser dès 2001 la consommation de drogue.
Oui, mais contrairement aux pays d'outre-Atlantique dont nous venons de parler à l'instant et qui ont décidé de légaliser la consommation du cannabis, ce sont ici toutes les drogues qui sont concernées, de l'ecstasy au cannabis en passant par le crack, la coke et l'héroïne. C'est donc une décision très ambitieuse qui a été prise par le Portugal et qui semble aujourd'hui porter ses fruits.
Il faut dire que la drogue était devenue un enjeu de santé publique particulièrement urgent dans ce pays.
Absolument. Entre 1975 et le tournant des années 90, la péninsule lusitanienne et particulièrement sa capitale, Lisbonne, était ravagée par l'omniprésence de la drogue et notamment de l'héroïne. Selon un rapport de l'Observatoire européen des drogues, 1% des Portugais étaient en 1999 dépendants à l'héroïne, soit plus de 100 000 personnes, sans parler des consommateurs occasionnels et des accros à d'autres substances. La réponse du pouvoir portugais a donc été, dans un premier temps, d'étendre et de renforcer la répression sur les consommateurs en leur infligeant de sévères peines de prison. À la fin des années 90, les cellules portugaises étaient ainsi remplies pour moitié de détenus issus de cette guerre à la drogue. De fait, comme le rappelle un article du quotidien El Espagnol repris par Courrier International, les toxicomanes n'osaient plus, dans ce cadre, demander un traitement médical par crainte de sanctions judiciaires.
Pourtant, en 2000, la majorité socialiste au pouvoir décide de prendre le contre-pied de cette politique pour favoriser l'accompagnement et le soin des toxicomanes.
Exactement. Ce qui était jusqu'alors considéré comme un problème judiciaire, pénal et donc in fine moral, devient véritablement un enjeu de santé publique. Le délit de consommation est transformé en infraction administrative. Le deal reste quant à lui passible de poursuites et de prison. Concrètement, cela signifie qu'une personne trouvée en possession de plus de 10 jours de consommation sera considérée comme un trafiquant et tombera à nouveau sous le coup de la justice. En deçà de ces doses, les usagers seront dirigés vers une commission dite de dissuasion. En cas de récidive, cette commission aura à choisir s'ils ont à payer une amende, effectuer un travail d'intérêt général ou être pris en charge par une structure adaptée de suivi et de soins.
C'est donc un travail au long cours qui est mené depuis près de 20 ans au Portugal.
Exactement, une politique de fond qui vise non pas à combattre la consommation individuelle, mais à opérer un véritable changement des perceptions et des représentations. Le toxicomane, qui n'est donc pas l'usager quotidien, récréatif, n'est plus considéré comme un criminel, mais comme un malade qu'il s'agit de prendre en charge et d'aider. Une politique qui a d'ailleurs eu d'excellents résultats puisque depuis sa mise en œuvre, plus de 40 000 toxicomanes ont été réhabilités et plus largement, le nombre de consommateurs de drogue est dans ce pays l'un des plus faibles d'Europe. À titre d'exemple, il y a 11,7% de consommateurs de cannabis au Portugal contre près de 30% au Royaume-Uni. 2% prennent de la cocaïne contre 8% en Espagne.
L'expérience portugaise nous invite donc à repenser la place et le traitement des toxicomanes dans la société.
Oui, elle nous conduit aussi à nous interroger sur le jugement que nous émettons à l'encontre des malades, transformés par notre verdict en criminels et en marginaux. Comme le disait Foucault, le supplice ne rétablit pas la justice, il réactive le pouvoir. La sanction pénale du consommateur n'a donc pas pour objectif d'éviter une future prise de drogue, mais bien de réaffirmer le pouvoir des institutions par la production et la diffusion de normes. À rebours, l'expérience du Portugal nous montre la voie d'une prise en charge des malades de la drogue et nous pousse à nous interroger plus largement sur la manière dont la société choisit d'exclure ou d'accompagner les habitants de ses marges.
Mmh.
Nouveau Cain for the Souls des Hills. Merci beaucoup Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve demain pour une émission consacrée à la fabrique de l'interdit et à l'évolution du regard sur les drogues. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous les coups. You better give me something to feel